Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, vous le savez, comme tous les jours d'ailleurs, c'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs. 18h, 19h30, allez, c'est parti, vous le savez, les informer en direct, mais aussi avec vous, au 01 53 48 3000. Alors tout d'abord au sommet, au menu de cette émission, eh bien on va revenir sur la Cour des Miracles, un engouement, et puis une réussite totalement conquise par évidemment des spectateurs qui ont décidé d'adhérer. On va en parler. Ils sont en plateau avec nous, justement, les invités. On va les présenter dans une poignée de minutes. Et puis 01 53 48 3000. Vous savez quoi? Je reviendrai sur ce sujet qui préoccupe. C'est la violence à l'école. J'en parlerai aussi avec mes invités. La violence à l'école, parce qu'elle pose question. Est-ce qu'elle n'est pas en train de se banaliser? Puisque figurez-vous, un jeune handicapé lycéen de 16 ans, eh bien, il s'est fait tabasser par des élèves. Bon, allez comprendre. Franchement, handicapé, moi, il y a quelque chose quand même qui m'échappe. Bon, on va en parler, on va prendre le temps d'en parler. 01 53 48 3000, y compris vous, est-ce que vous prenez le temps de sensibiliser tout simplement vos enfants? La clochette, ça mérite, là. Attention, hey! Ensuite, au sommaire de cette émission, les débatteurs influenceurs viendront confronter leur point de vue sur des sujets qui ont retenu notre attention. Et il y en a un paquet. Oui, chers amis auditeurs, parce que, évidemment, à la fois les sujets du jour, mais également aussi, vous savez quoi, vous, au 01 53 48 3000, j'attendrai votre point de vue, mais également aussi votre commentaire, comme chaque soir. Vous savez, vous êtes de plus en plus nombreux, et ça, c'est un véritable plaisir. Allez, on va lancer une double clochette. Ça, c'est une spéciale dédicace pour les auditeurs, qui sont de plus en plus nombreux, ici même, dans les informés. Allez, les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant. Ah, j'ai oublié Pascal Boniface, 18h30, et son billet d'humeur. Ouais, aujourd'hui, il a décidé de parler, vous savez quoi, des JO d'hiver en Arabie Saoudite. Il faut aller comprendre, quand même. Les JO, attendez, je répète, hein. Les JO d'hiver en Arabie Saoudite. Là, c'est pas une double clochette, c'est une triple clochette, chers amis. Faudra nous expliquer comment on fait en Arabie Saoudite sans neige. Bon. Ah, vas-y, tu peux te lâcher. Allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Les informés. L'interview.
C'est avec la Cour des Miracles. J'en parlais la semaine dernière. Souvenez-vous, je vous ai dit que la Cour des Miracles, tout simplement, c'est une réussite, un exploit. Justement, ils sont avec nous. Tenez, présentez-vous. Bonjour.
Bonjour, Hakim Zani. Donc, je suis co-auteur et co-réalisateur du film La Cour des Miracles.
Bienvenue. Vous êtes venu en famille aujourd'hui, hein?
Exactement. Hein. Bah, ouais. On a épuisé tous nos moyens de garde pendant
Hakim,
pour faire la promo,
ouais.
Donc on a ramené les
avec
enfants.
Ses enfants, sa fille. Oh, tiens, on va lui donner ouvrir. On va lui ouvrir le micro. Comment tu t'appelles? Johanna. Ah, Jeanne. Tiens, rapproche le micro. Bonjour, Jeanne. C'est mignon. Toi aussi, t'es une future réalisatrice? Tu
veux
faire comme ton père et ta mère?
Non.
Non. Tu veux faire quoi?
Je sais pas encore.
T'as quel âge?
7 ans et demi.
Oh, t'as le temps. 7 ans et demi, ça c'est quoi? C'est du CE1, ça? Non?
CE1.
CE1. Je me suis pas trompé, tu vois. Hakim, il est venu aussi avec Karine. Bonjour, Karine.
Et bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Bon.
Je suis contente d'être là.
Co-réalisatrice, co-scénariste.
Voilà, l'autre partie du binôme.
Et vous êtes venu avec votre fils?
Eh oui, le fiston.
Il dit bonjour aussi? Bonjour, jeune homme. Bonjour, jeune homme, dans le micro. Bonjour, quel est ton prénom?
Abel,
la classe. T'as quel âge, Abel? Je suis comme Martin, moi, tu sais, à l'époque. T'as quel âge? Combien?
4 et demi.
4 et demi? Il est en maternelle?
T'es
un grand garçon, toi. Bon, bah écoute, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Abel?
Tu veux faire quoi?
Des films, toi aussi?
Tu voulais pompier un moment, mais
exactement. Je sais pas. Bon. Allez, c'est parti, Karine et Hakim, la Cour des Miracles. Est-ce qu'on peut rappeler la Cour des Miracles, ce que c'est, et notamment comment est né ce fameux bébé? Karine.
Alors, c'est une fiction, c'est une comédie sociale. Mmh. On parle beaucoup de mixité sociale, on parle d'une brochette d'instit, ils sont plusieurs, à vouloir concurrencer, ils sont dans un quartier populaire, ils veulent concurrencer une école bobo qui s'installe juste en face. Et donc, ils mettent en place tout un système d'écoles vertes, etc. Mais en tout cas, c'est une joyeuse bande d'instit qui apprend à se connaître. C'est ça qu'on avait envie de raconter.
Et en plus, vous êtes en pleine actualité.
Bah, on peut, c'est vrai qu'on colle carrément à l'actu. On peut difficilement mieux faire, en fait.
Hakim, qu'est-ce que vous rajoutez, justement, quand on parle de la Cour des Miracles, avec ce que vient de préciser Karine?
Ouais, bah, du coup, que ça reste quand même une fiction, même si qui est très documentée. On s'inspire effectivement du réel. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était de suivre toute cette galerie de personnages, de troupes de comédiens, et qui représentent cette équipe d'Instit. Et du coup, c'est vraiment de regarder l'école à travers les adultes.
Alors parlons-en justement. Aujourd'hui, vous êtes en train de vivre un engouement, oui ou non? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la Cour des Miracles, on parle de votre film. C'est la consécration en quelque sorte à Hakim et Karine, vous co-réalisateurs, co-scénaristes du film.
Bah, c'est vrai que nous, on avait commencé il y a 10 ans avec un long métrage, mais complètement autoproduit. Donc avec la force des potes, la force des techniciens qui avaient bien voulu nous accompagner. Et là, c'est le premier long vraiment bien produit par Haut et Court, donc avec une belle promo. Et ça, c'est vrai que c'est nouveau pour nous. Donc ça, c'est une chouette aventure. En tout cas, ça clôt une sorte de, en tout cas, de reconnaissance. En tout cas, on s'installe un peu plus, quoi.
Parce que vous-même, vous êtes issu des quartiers populaires. Donc, est-ce qu'on peut considérer que vous avez cette légitimité justement d'en parler, Hakim?
Oui, c'est sûr. Après, moi, je pense que chaque...
Est-ce que ça joue, en quelque sorte?
En tout cas, c'est sûr que toute la partie, comme j'ai d'ailleurs documenté du film, ça, le fait d'avoir été en immersion pendant toute notre vie, ça a facilité certaines choses pour écrire le scénario. Après, chacun est légitime de raconter ce qu'il veut, mais en tout cas, il faut vraiment s'y intéresser vraiment, quoi. Et ne pas passer à côté de ces sujets ou de les frôler ou, enfin, je parle de Mathieu Kassovitz quand il a fait la haine. Et je pense que voilà, il vient d'un milieu très privilégié, mais voilà, il s'est enfermé avec ses comédiens dans la cité dans laquelle il a tourné. Et je pensais qu'il y a une certaine authenticité dans le propos du film. Mais voilà, c'est-à-dire, je pense que n'importe qui peut raconter ce qu'il veut sur le sujet qu'il veut, mais voilà, faut vraiment se documenter pour éviter de dire n'importe quoi.
Mais justement, pour dire n'importe quoi, Karine, est-ce que quand on vient des quartiers populaires, on est plus légitime qu'un Mathieu Kassovitz, par exemple, pour raconter une histoire, à scénariser, raconter la Cour des Miracles? C'est, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est des élèves qui se retrouvent évidemment autour d'un melting pot. C'est aussi ça, la richesse des quartiers populaires.
Oui, oui, bien sûr. Après, je suis assez d'accord avec Hakim. Je pense que peut-être qu'un jour, j'écrirai sur des montagnards. Je connais pas très bien. Moi, auquel cas, je passerai pas mal de mois là-bas. Je pense que c'est l'authenticité, c'est être sincère. Donc, c'est vraiment s'y intéresser, avoir envie de raconter une histoire autour d'un milieu qu'on connaît pas ou qu'on connaît très bien. Nous, on a gagné du temps. J'ai enseigné plusieurs années. Hakim était animateur. Donc, nous, on avait de la matière vivante, en fait. Donc, il suffisait de la mettre en histoire.
La matière vivante, c'est, j'imagine, de longues années de travail, de longues années périlleuses, laborieuses, pour faire évidemment amorcer, faire pondre évidemment votre bébé à vous deux.
Bah, c'était long, ouais, parce qu'en fait c'était un film choral et on savait pas trop, mais le film choral c'est quand même très compliqué parce qu'il faut laisser aucun personnage sur le bord de la route. Donc ça nous a demandé pas mal de temps, ouais. C'était le plus long, l'écriture, hein. Et après le tournage était vraiment joyeux, quoi. Ça, c'est super.
Du coup, en plus, nous, on est autodidacte. Donc, du coup, voilà, on n'a pas eu suivi de formation, de scénariste ou autre. Mais du coup, voilà, nous, on écrivait essentiellement des courts-métrages. Donc, voilà, on arrivait à tenir sur cette durée d'une vingtaine de minutes pour raconter une histoire. Mais là, c'est vrai que c'est la première fois qu'on se confrontait à l'écriture d'un scénario de long-métrage. Et donc, du coup, effectivement, et en plus, film choral, avec des enfants, avec des animaux. Déjà, voilà, j'essaie de faire coïncider toutes ces choses pour que chacun puisse avoir sa place dans le récit. Ça n'a pas été une mince affaire.
Est-ce que, justement, vous avez dit que chacun trouve sa place. Est-ce qu'à un moment, ça n'a pas été compliqué pour vous? Ou est-ce que vous êtes entouré aussi, y compris de professionnels, pour vous accompagner?
Bah, notamment dans l'écriture, ouais, on a eu deux consultants. On a eu Catherine Payet au début et Romain Compin à la fin. Donc, des consultants, c'est des gens qu'on voit de temps en temps, qui nous aident à structurer, à mettre en place. Mais ça, pas mal de scénaristes font appel à des consultants. Et ça, c'était hyper précieux, en fait, pour nous.
Vous aviez besoin de ça?
Ouais, franchement, on avait besoin et je pense que c'était une bonne idée des prods de nous proposer ça parce que c'est aussi prendre un peu de distance, avoir un regard extérieur sur l'histoire qu'on veut raconter. On avait trop de matière en fait. Surtout le premier film produit, on a envie d'y mettre toute sa vie, sauf que c'est une histoire d'une heure et demie, donc il faut se calmer un peu et essayer de tirer des fils qui servent une histoire. Donc ça nous a permis de faire le tri et de vraiment connaître sur le bout des doigts nos personnages.
Hakim?
Non, je suis d'accord. Après, c'est vrai que même les productrices, à un moment donné, quand on a la main dans le cambouis ensemble pendant des années sur la même histoire, à un moment donné, c'est bien d'avoir ce regard extérieur qui a pas du tout vécu les passages douloureux à un moment donné dans tout le processus d'écriture. Et donc, du coup, voilà, qui a un regard frais sur le récit, ça, c'est super important.
Dites-moi, Hakim et Karine, évidemment, avec La Cour des Miracles, ce film, comment vous le viviez, ce moment, évidemment j'imagine que vous êtes emporté par un engouement. Comment vous le vivez?
Moi.
Est-ce que c'est retombé depuis?
Bah, c'est retombé dans le sens où on a sorti le film et du coup, honnêtement, ça fait langue de bois. On a eu un tournage de malade. C'était extraordinaire. Rachida Brakni, Gilbert Melki, Rosam. C'était une brochette de comédiens vraiment formidable. C'était tellement joyeux avec beaucoup d'enfants et de parents d'Aubervilliers, de Bobigny, qui étaient donc figurants. Toute cette atmosphère-là, c'était l'été dernier. Et là, le fait d'avoir fait la promo et tout, c'était un peu la fin de la colo.
Ouais.
Donc, une sorte de nostalgie quand même. Hein. C'est un peu triste que ça soit fini. Maintenant, il faut penser au film d'après. Mais l'esprit de famille qu'on retrouve dans le film, je pense qu'on le retrouve parce qu'il était là, en fait, sur le tournage. Surtout quand on a quand on a plein de figurants qui n'ont jamais joué, il faut que les comédiens soient super, en fait. Parce que sinon, tout le monde est mal à l'aise.
Ça a été compliqué, d'ailleurs, à un moment, de coacher les différents acteurs, comédiens. Ceux, d'ailleurs, qui ne sont pas des professionnels. Vous avez sorti des gens comme Melki, comme Brakni. C'est des professionnels.
Ouais.
Et pour les autres, est-ce qu'il a fallu, évidemment, les accompagner?
Ouais, après, nous, on a, par expérience, dans nos précédents films, on faisait ça, on essayait de mélanger, effectivement, des comédiens confirmés, et puis des comédiens non professionnels qui s'essaient au jeu de la caméra. Mais je pense aussi que il y a des visages, qui ne trahissent pas une certaine réalité, et ceux qui rapportent aussi l'authenticité. Mais après, pour revenir sur ce que disait Karine, c'est que le côté familial et tout, ça veut dire qu'en fait, effectivement, de vivre dans les quartiers populaires, c'est compliqué, effectivement, c'est pas évident tous les jours. Mais par contre, quand il y a une union autour d'un projet, et ben là, tout de suite, tout le monde met la main à la pâte et ça donne une certaine richesse qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et ça, je pense que c'est présent dans le film parce qu'on a vraiment été porté et par le quartier et par les comédiens et tout le monde a joué le jeu.
Justement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a des pépites dans les quartiers populaires?
Oui,
des pépites,
oui.
Évidemment, je parle de la culture, du cinéma.
Y en a plein. Enfin, moi, je veux pas être chauvine, mais Aubervilliers, on a quand même prouvé qu'il y avait beaucoup de. Enfin, je pense à Fadza Bouyamed, dans le théâtre, il y a Lounès Tazahir. Enfin, ça a été une ville d'éducation populaire qui a fait surgir des tas de talents. Après, il y a une chanson d'Alain Leprest qui s'appelle Peut-être, qui me touche beaucoup. Parce qu'à chaque fois, il parle d'enfants et dit lui, c'est peut-être Mozart, on ne saura jamais, en fait. Et je pense que, bon, comme partout, il y a plein de pépites, mais il y a plein d'endroits, que ce soit les campagnes ou les quartiers populaires, où ils seront rarement décelés et sollicités, stimulés pour développer leur talent, quoi. Et ça, c'est un peu, c'est moi, ce qui ça peut me rendre colère.
Pourquoi?
Bah parce que c'est injuste et ça rejoint ce qu'on raconte dans le film. C'est-à-dire que l'école, c'est l'endroit de la République où on doit justement, où l'enfant peut déployer tout ce qu'il est capable de faire. Et visiblement, il n'a pas le même terrain de jeu pour déployer ses ailes selon l'école où il se trouve, quoi. Et ça, c'est injuste.
On va en parler justement. On va prendre le temps d'en parler, cette injustice, cette inégalité dont vous faites référence. Hakim Zouhani, dites-moi, vous avez toujours baigné dans le cinéma? Ça a toujours été votre philosophie?
Non. En plus, moi, j'ai non, pas du tout. Moi, j'étais animateur socioculturel.
C'est ce qu'elle a dit.
Je me destinais vraiment à faire ça et tout. Par contre, j'étais très très cinéphile. Surtout le cinéma italien, les comédies italiennes, parce que c'est en termes d'identification de dire à un moment donné sur des écrans, est-ce que je me sens représenté par la personne qui est en face de moi. En fait, dans les comédies italiennes, le fait que ça parle avec les mains, ce côté très méditerranéen et tout, ouais, j'avais l'impression de voir les gens du quartier, ma famille, sur grand écran. Donc je me suis très identifié à ça. Et puis après, sur tous les films afro-américains de Spike Lee notamment, où effectivement là on parlait des quartiers et tout, et je m'identifiais aussi vachement. Donc du coup, le cinéma, je suis arrivé aussi par un moment de ce côté de se dire, eh ben nous aussi on a des choses à raconter, on a des visages à montrer sur grand écran. Donc allons-y
justement. Le fait, vous, Karine May, le fait de passer évidemment d'instit maintenant désormais de l'autre côté, hein, ça y est, vous vivez, on peut le considérer, de votre passion, y compris vous, Hakim Zouhani. Comment s'est faite cette transformation?
Eh ben, elle s'est faite pas rapidement, je peux vous dire, parce que en fait, on n'est pas rentier, donc on n'a pas. En fait, j'ai été instit et on a réalisé notre premier long plus plusieurs courts-métrages. Je faisais les deux en même temps. Donc j'ai fait les deux en même temps pendant pas mal d'années. Ensuite j'ai pris des mi-temps et après quand j'ai commencé à toucher quelques droits d'auteur et à voir qu'il y avait des pistes, là j'ai démissionné il y a un an. Voilà.
Ça vous manque pas?
Non. Ce qui me manque c'est peut-être les enfants et les collègues, mais pas l'institution, je peux vous dire.
Eh ben on continue d'en parler justement. La Cour des miracles, vous savez, c'est une comédie française réalisée par Hakim Zouhani qui est avec nous, avec Karine May qui est avec nous en plateau et en famille en plus. Tout de suite 01 53 48 3000. On continue d'en parler, y compris des inégalités, des injustices, mais surtout, vous savez quoi, cette violence vécue aussi dans les écoles. J'irai leur poser la question pour voir un petit peu comment ils vivent tout ça. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant.
Comédien.
Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
18h24 précisément, bienvenue les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant, vous le savez, 01 53 48 3000, La Cour des Miracles, c'est un film, une comédie française réalisée par Hakim Zouhani et Karine May, qui est sorti il y a à peine quelques jours, quelques semaines, et ils connaissent déjà un engouement, en tout cas un succès. Je vous invite à aller le voir, La Cour des Miracles, le film à ne pas manquer du moment, justement. Alors, vous l'abordez, vous, toutes ces questions d'inégalité et d'injustice, vous abordez aussi ces questions de violence, parfois, qui peuvent être heurtées entre les différents camarades de classe. Karine et Hakim, comment aujourd'hui, évidemment, quand on est encore dans une actualité, on voit un jeune élève de 16 ans, handicapé, qui se fait malmener par d'autres élèves, comment vous réagissez, évidemment, quand on voit que, finalement, la violence se banalise dans les écoles, Karine? Vous qui avez été instite en plus.
Bah après moi, là vous m'apprenez ce fait divers, j'étais pas au courant. Moi après c'est vrai que c'est au collège ou en école primaire?
Lycée.
Ah ouais. Bah écoutez, je trouve ça horrible. Je pense qu'il y a, moi en tout cas pour avoir tourné plus dans les écoles chez les plus petits, c'est dur de dire ça, mais tout dépend de l'équipe en place et de qu'est-ce qu'on instaure comme comportement, comme règle. Et enfin, moi, je l'ai vu dans des.
Quand vous dites on instaure, qui doit instaurer?
La hiérarchie, ça commence par le principal, ensuite l'équipe pédagogique, c'est compliqué. Surtout collège et lycée, ils sont très nombreux. Une école primaire, déjà, bon, ils sont plus petits, et en plus, les enfants. Et surtout, c'est des petites équipes qui arrivent à quand même se mettre d'accord sur un fil à donner, quoi. Je pense que là, les adultes ont un rôle à jouer énorme. Après, moi, où là, je vais être l'enseignante qui va soutenir les enseignants, c'est qu'à un moment donné, si la hiérarchie soutient jamais, les gens sont là à essayer de faire leur boulot et en plus à instaurer des trucs, mais ils sont peu soutenus. Donc, des fois, j'ai l'impression que comme le bateau est en train de couler, chacun se débrouille comme il peut et après, on est face à des situations comme ça qui défient l'entendement, quoi.
Des situations comme ça, comme dit Karimé, Hakim Zouhani, justement. Franchement, je vous pose la question. Est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas venus justement installer cette banalisation?
Alors, non.
C'est un espèce de concours maintenant, désormais. L'autre, il va faire mieux que l'autre, qui va faire mieux que tel ou tel lycée.
Après, c'est sûr que. Enfin, moi, j'ai fait toute ma scolarité à Aubervilliers, vraiment jusqu'au bac. Et collège. Et, moi, j'ai jamais réellement vécu de choses violentes comme ça et tout. Alors il y avait le petit pont massacreur, genre de truc. Mais effectivement, bien sûr que les réseaux sociaux, pour moi, ça accentue la chose, puisque
ça vous inquiète pas vous-même qui avez des enfants? Est-ce que vous dites pas à un moment donné, ça me préoccupe, y compris cette jeune génération qui arrive?
Si.
Après, je pense que moi, au niveau des enfants, même des ados, je pense pas que le comportement ait changé, qu'il y ait eu un gap énorme. Je pense que ça a toujours été, c'est l'âge de l'adolescence, c'est là où on expérimente des choses, des fois qui peuvent être dangereuses et tout. Mais en fait, le fait que ce soit amplifié par les réseaux sociaux, c'est-à-dire que ce qui se passait à l'école, dans une cour d'école, maintenant c'est partout, c'est dans les médias, tout le monde en parle. Alors là, c'est effectivement super violent pour cet ado et pour la famille, bien sûr. Mais du coup, ce qui se réglait dans la famille ou entre parents, où les élèves étaient punis et tout, maintenant ça devient un enjeu, un sujet national. Et là, en réalité, tout le monde perd pied à ce niveau-là parce qu'il n'y a pas de solution.
Karine May?
Oui, je le rejoins et c'est ce que je vous disais. Après, c'est aussi qu'est-ce qui est mis en place, quelles sont les règles internes en fait. Parce que oui, au début de l'année, on distribue tout le temps les comportements, ce qu'on a le droit de faire, pas de faire, etc. Mais ça va au-delà. Moi, je suis allée
Dans votre film La Cour des Miracles, finalement, Karine May et Hakim Zouhani, qu'est-ce que vous vouliez? J'ai vu le film, mais qu'est-ce que vous vouliez véritablement mettre en exergue, justement? Vous voulez interpeller quoi et qui?
On parle très peu d'enfants. C'est vraiment un film d'adultes. On voulait pouvoir faire une comédie, pouvoir rire d'une question quand même fondamentale qui est est-ce que l'école égalitaire existe? Est-ce qu'il y a les bonnes écoles et les mauvaises écoles? Et on voulait un petit peu chambrer tous les parents qui veulent que leurs enfants soient dans la bonne école, c'est-à-dire avec les bonnes familles, avec les petits blonds, etc.
C'est ça. Et vous cassez cette logique?
Eh ben, en tout cas, on casse la logique. Ça dépend comment on prend le film. En tout cas, on montre que l'entre-soi n'est pas que dans les quartiers populaires. Dans les quartiers aisés, il y a de l'entre-soi. Et plus dans les quartiers aisés que dans les quartiers populaires. Parce que les gens n'ont pas trop envie de se mélanger parfois. Donc c'est ça aussi qu'on voulait raconter.
Ben, vous parlez de mélanger. Est-ce qu'on n'est pas en train de regretter justement ce melting pot qui constituait le socle républicain? Aujourd'hui, quand vous allez dans les quartiers populaires, il y a essentiellement, ça se ghettoise. Je vous dis clairement.
Mais le melting pot, c'était à l'époque. Moi, j'ai une quarantaine d'années. J'ai connu le melting pot. C'est-à-dire, il y avait les fils d'ouvriers, fils de médecins, des blancs, des noirs, des maghrébins, etc. Là, maintenant, il n'y a plus de melting pot. Puisque, par exemple, moi, j'étais à la Courneuve, il n'y avait que des Chinois et des Indiens. C'est pas du melting pot, ça. Puisqu'il n'y a pas de mélange. Puisqu'il n'y a que deux ethnies dans toutes les classes. Et les blancs, c'est des Serbes. Donc il y a plus de melting pot. Le vrai mélange rationnel et constructif, c'est quand on est sur quelque chose d'équilibré. Et là, on voit bien que dans certains quartiers, c'est pour ça que notre personnage de Madame Nedjar dit on veut des blonds. C'est pas parce que je suis d'origine maghrébine ou que je suis maghrébine que j'ai envie d'être avec que des maghrébins. C'est ça le mépris en fait de la société. C'est d'assumer et de dire mais regardez, ils sont contents d'être entre eux. Mais pas du tout. C'est pas du tout ça. Même socialement, les pauvres n'ont pas envie de rester avec des pauvres. Par contre, beaucoup de riches ont envie de rester entre riches. Ça, c'est vrai.
On continue d'en parler. C'est passionnant ce que vous dites. Hein. Effectivement, je viendrai vous poser la question. Il est 18h30 et pour l'heure, vous savez, comme tous les jours, c'est le Quoi de Neuf. Elle dit déjà. Mais oui, ça file, ça file, ça file. Vous connaissez la radio. C'est comme ça. L'horloge, elle fait... Ah, déjà. Allez, c'est parti, le Quoi de Neuf.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Et le Quoi de Neuf, comme chaque jeudi, c'est avec le célèbre Pascal Boniface, le président fondateur de l'IRIS. Bon cher Pascal Boniface, bonjour. Bonjour Pascal.
Oui, bonsoir Adil.
Bonsoir, comment allez-vous tout d'abord ?
Très très bien, très très bien.
Eh bien Pascal, vous avez décidé de consacrer dans votre Quoi de Neuf les JO en Arabie Saoudite. Tiens, ça peut donner quoi ? On vous écoute.
Alors, ce ne sont pas tout à fait les JO, ce sont les Jeux asiatiques d'hiver. Donc ce sont bien des Jeux organisés par le comité Asie du comité olympique. Et ce sont des Jeux d'hiver, donc forcément ça surprend tout le monde. Comment peut-on aller skier en Arabie Saoudite ? Déjà qu'il y a eu un scandale des canons à neige pour Pékin, là, au moment où on parle de la climatisation des stades au Qatar, bien sûr, c'est encore plus gros. Et tout le monde se surprend. Pourquoi ? Comment est-ce possible ? Et en plus, cette attribution a été faite à l'unanimité des pays qui ont voté. Alors, ceci étant, il faut l'admettre, l'Arabie Saoudite est le seul pays candidat. Donc, déjà, ça tue un peu la concurrence. Ces Jeux n'ont pas eu lieu depuis 8 ans. Ils ont été créés en 86. Ils n'en portent pas beaucoup de succès parce qu'effectivement, il y a assez peu de pays asiatiques qui sont intéressés par les sports d'hiver. C'est vraiment quelque chose de très particulier, très européen, très occidental, Europe et États-Unis. Mais en fait, là où ça pêche un peu, c'est que les Saoudiens ont une stratégie d'exister par le sport. Ils veulent imiter en cela le Qatar et les Émirats arabes unis qui ont une longueur d'avance sur eux. Donc, ils organisent des supercoupes d'Italie, supercoupes d'Espagne. Le vainqueur de la coupe et le vainqueur du championnat se rencontrent, mais en Arabie Saoudite. Et MBS fait du sport un instrument de communication. Mais là, peut-être qu'il est allé un peu plus loin, trop loin, parce que ça risque de se retourner contre lui. Il y a plutôt la réaction, c'est « mais il est trop gourmand, c'est pas rationnel de faire des sports d'hiver en Arabie Saoudite. On va pas créer de la neige là-bas. » Et donc, en fait, il y aura une sorte de double sentiment. On parle beaucoup de sport washing, mais le sport washing, le fait de dire que quand on a gagné une compétition sportive, on devient populaire, c'est pas tout à fait exact. Vous attirez l'attention sur vous, mais là, l'Arabie Saoudite va plutôt attirer des critiques en ne respectant pas les équilibres écologiques. Alors certes, on pourrait dire, nous on a des piscines chauffées, on a bien des patinoires, donc c'est vrai qu'on ne peut pas organiser les épreuves de Coupe du Monde, Jeux Olympiques, que dans les pays à climat tempéré. Mais là, c'est peut-être pousser la logique un peu trop loin. Et surtout, ça risque de faire un effet rétroactif, plutôt backfire. C'est-à-dire que la Russie voulait que faire parler d'elle en termes positifs, elle va plutôt attirer des critiques.
Critiques, justement, comme un peu le Qatar, en pleine Coupe du Monde, justement, quand on appelle les différents maires, d'ailleurs, de France, appellent de plus en plus au boycott. Est-ce que c'est quelque chose, évidemment, qui peut se reproduire pour l'Arabie Saoudite ?
Oh bah là, disons qu'il y aura assez peu de pays qui voudront produire les Jeux asiatiques d'hiver, parce que ce ne sera pas une compétition très relevée. Oui, pour le Qatar, le mouvement est lancé. Les mairies disent non, on ne peut pas faire ça pour question de droits de l'homme. En fait, ils veulent, un, faire des économies, deux, préserver leur centre-ville, que les banlieues ne débarquent pas. Et puis, il y a quand même une petite contradiction. La maire de Paris ne veut pas d'écran géant, alors que le Paris Saint-Germain, je crois qu'il appartient au Qatar, non ?
Merci pour ce billet d'humeur, mon cher Pascal Boniface, le patron de l'IRIS. À la semaine prochaine, sans faute ?
Avec grand plaisir.
C'était le Quoi de Neuf.
Les informés, le Quoi de Neuf.
01 53 48 3000, vous pouvez évidemment venir participer, témoigner, commenter. Dites-moi, avant de vous libérer, Hakim Zouani, Karine May, justement... Karine, très justement, rappelez évidemment qu'est-ce que vous vouliez mettre en évidence dans ce film. Qu'est-ce que vous avez envie de dire justement ? Ah oui, tiens, on parlait de ce métissage. aujourd'hui, les quartiers populaires, qu'est-ce qu'on peut regretter, justement, quand on voit ces écoles qui ne sont pas à l'image de notre société ? À qui la faute ?
Bah là, du coup, nous, clairement, on met la responsabilité des politiques en cause sur, effectivement, comment on redessine des cartes, des secteurs scolaires pour pas que les gens se mélangent et tout. Après, c'est clair que dans les villes... nous, on prend exemple sur Aubervilliers, mais c'est le cas un peu de toutes les villes limitrophes du 93, c'est qu'il y a une telle paupérisation de la population qu'on a créé des écoles ghetto. Et ça, c'est triste. Après, du coup, nous, dans le film, effectivement, c'est le point de vue du personnage de Zaya quand elle compare ces deux photos de elle quand elle était dans cette école qu'elle a vraiment vécu, et cette école républicaine, égalitaire, où effectivement il y avait un vrai mélange de classe sociale, d'ethnie, et aujourd'hui qui est regrettable parce que c'est plus du tout le cas. Donc la mixité sociale, ce qui est très, très étrange, c'est que dans ces quartiers-là, dans ces villas, on la voit dans la rue, cette mixité sociale et ethnique, mais par contre ça se traduit pas du tout dans les écoles.
Donc ça se ghettoise de plus en plus.
Oui, je pense, clairement. En tout cas, dans certaines villes, c'est flagrant, dans la plupart, je pense.
Alors, quelle est l'aventure de votre film ? Comment il se poursuit, justement, dans les prochains jours, les prochaines semaines ? Quelle est l'actualité vous concernant pour la Cour des Miracles, avec Rachida Brakni, justement, en tête d'affiche ?
Eh bien, on continue à tourner dans les villes. On va aller à Aix, à Nice, vers Valence, à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Au Portugal, on est pris dans un festival à Lisbonne. Ça, c'est cool.
Au Portugal.
Chouette, ouais.
Ouais, c'est bien, ça.
Et voilà, après, il continue son chemin, on va voir.
Avec D6, Gilbert Belki, Rachida Brakni, vous les embarquez tous ?
Non, on aimerait bien. On aimerait bien. Tellement, mais ils sont tous en train de tourner, en fait.
Tous.
Beaucoup, ouais.
Vous êtes déjà sur d'autres projets, Hakim et Karine ?
Oui, on est en train de réfléchir à une série. Et là aussi, on écrit une comédie romantique.
Pour qui ? Netflix ?
Non, pour le cinéma.
Pour le cinéma.
Ouais.
Enfin, pour l'instant, c'est pour le cinéma. Après, qu'on va se faire bouffer par la grosse machine après, on se met. En tout cas, là, on l'écrit pour le cinéma.
Et là, pour le moment, vous savourez ce plaisir.
Absolument.
Ouais. Et vous le savourez comment, l'un et l'autre, d'ailleurs ? Comment ça se gère ?
Ça se gère, on se relève pour garder les enfants.
Ouais.
Ça se gère très terre à terre. On n'a pas le temps de s'emballer beaucoup.
Pas d'emballement.
Mais on a savouré en tournant.
L'un de vous deux qui a pris la grosse tête, non ?
Non. Après, nos âges, et puis surtout par rapport à notre parcours et tout, je pense que quand on a un gros succès à 20 ans et à 40, on ne vit pas du tout de la même manière.
Donc vous le vivez plutôt bien.
Franchement, on a bossé avec des comédiens. D'Issis, là, il est disque d'or, il remplit la salle Playel. On voit comment il est humble. Et tous nos comédiens, pareil, franchement, on fréquente que des gens qui sont sereins par rapport à ça.
Vous savez quoi ? D'abord, je vous souhaite évidemment encore plus de succès pour la Cour des Miracles. Il faut aller le voir, chers amis auditeurs. La Cour des Miracles, partout, évidemment.
En famille,
avec des potes, tranquillement. Ouais. Il faut y aller. Justement, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à celles et ceux qui vous écoutent ? Hakim Zouhani.
Allez voir la Cour des Miracles. On est sur Beurre FM, c'est la radio de la diversité. Et je pense que vous allez vous retrouver dans le film, parce que c'est un film qui a l'image d'une société qu'on a envie de voir. C'est-à-dire, effectivement, ce mélange fait partie de l'histoire française.
Karine May ?
Moi, je dirais bien, n'ayez pas peur. Parce que quand on dit comédie française, moi, tous mes potes m'ont dit, ça me fait peur, en fait. Je sens que je vais pas rire et je vous mets au défi. Je pense que c'est, humblement, je vous le dis, les gens disent que c'est drôle, qu'on rigole pas mal, qu'on ressent pas mal d'émotions et que les enfants, à partir de 9-10 ans, ils trouvent leur compte. Et ça, c'est cool.
Bon, écoutez, plein de succès encore et longue vie, évidemment, aux d'autres projets. Merci, Karine May.
Merci beaucoup.
Et bravo. Hakim Zouhani, bravo et bon vent. Mademoiselle !
Tu dis au revoir, Jeanne.
Vous avez t'as compris ce qu'on dit ? Non ?
Non.
Bon, tu sais qu'on parlait d'un film. Bon, à bientôt.
Elle est dans le film.
Elle est dans le film en plus ?
Un peu de figuration.
Future star, c'est ça ? Tu veux être comédienne, ça y est, on a trouvé ta vocation. Au revoir, jeune homme. À bientôt. Karine May. Et puis Hakim Zouhani, c'est le film que vous devez aller voir, ça s'appelle La Cour des Miracles. Merci infiniment à vous. On se retrouve dans une poignée de minutes juste après la pause avec le face-à-face. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
h 44, si vous venez de le retrouver, sachez-le, c'est ici que ça se passe, aux informés, les informés, jusqu'à 19h30, et face à face, c'est parti.
Les informés, le face à face.
Le face à face, chers amis auditeurs. Aïe, je vais commencer par Lovarinel, bonjour.
Bonjour.
Porte-parole du mouvement, du collectif Pluriel. Comment ça va, Lova ?
Ça va très bien.
Bon, plaisir de vous recevoir.
plaisir d'être ici.
Emmanuel Dupuy, le boss de l'IPSE.
Oh, le boss, ouais, ça fait parrain, ça.
Ouais, c'est bien, ça fait le...
Président.
Président. Ouais. Pourquoi le boss, vous aimez pas?
Bah, ça fait un peu péjoratif quand même. Moi, je caporise pas mes chercheurs. Ils sont très libres. Ils sont
complètement
très
péjoratif. Complètement. Voilà,
vous en accueillez souvent ici.
Ouais, c'est ça. Rudy Casi, le directeur général de l'Association des élus de France.
Délégué général.
Délégué général. Et ça va?
Conseiller municipal à Saint-Germain-l'Arpajon.
C'est ça. C'est un élu.
Particulièrement.
Un élu.
Précisément. En fait.
Allez, messieurs, madame, messieurs, pardon, nous allons commencer avec ce premier sujet. J'imagine que ça ne vous a pas échappé. Eh bien, Philippe de Villiers, vous savez quoi? Sur CNews, tranquillement, vous savez, genre, au calme, il affirme que Macron est en réalité un enfant et qu'il n'est pas fini. Je dois dire, quand j'ai vu ça, on peut considérer quand même que ça installe un malaise dans une société en ce moment où on est essentiellement, où on surfe que dans la polémique. Laura Rinaldi, vous qui êtes porte-parole du mouvement pluriel.
Bon, je peux être honnête?
Bah, il faut, on est là pour ça. On est là pour être honnête.
Il y a le fond, la forme, le contenant et le contenu.
Ah.
On va commencer par le contenant. Le contenant, c'est CNews, qui, par définition, fait de la polémique sur de la polémique, incite et choisit ses invités pour justement créer cette polémique. Donc, oui. Quelle surprise, effectivement, d'avoir Philippe de Villiers, un personnage polémique.
Proche de Macron.
Alors, proche.
Moi, ou ancien proche.
Voilà. Mais il faut le dire, c'est vrai. Mais ça montre effectivement qu'il y a en politique ça erre et que en tout cas la ligne éditoriale de CNews on la connaît. Donc moi, en fait, j'écoute plus. Voilà. Après sur le fond.
Mais quel est son intérêt de dire ça? Il attend quoi au fait? Quand
il a soutenu Zemmour. Enfin, c'est quand même pas rien. Il vient, il veut maintenir quand même. On va pas se mentir. On parle, on chuchote, on parle de dissolution. Il y a des troupes à mobiliser. Il y a le parti Reconquête qui va mal. Lui, il a intérêt à reposer les jalons d'une cristallisation de la société. Et ça commence en disant le président est un enfant. Donc de la part d'un homme qui a un parcours paternel hautement discutable, moi, ça me fait rire. Voilà.
Emmanuel Dupuy, il cherche quoi en balançant?
Je partage le point de vue de Lova, même si on n'est pas du même bord politique et même si on n'a pas la même relationnelle avec Emmanuel Macron. Premièrement, effectivement, il y a la forme, la temporalité de la critique. Il faut dire que la famille de Villiers, les deux frères de Villiers, ont toujours un petit grief personnel. Personnel, Pierre de Villiers, évidemment.
Il faut quand même faire la différence, c'est pas les mêmes.
C'est pas les mêmes raisons.
C'est vraiment pas les mêmes et c'est pas du tout la même idéologie. Enfin, je veux pas les mettre non plus, mais.
Non, vous avez raison de le rappeler. C'est vrai.
Il y a des griefs certains et justifiés, mais la base n'est pas la même. Faut quand même.
Tous les deux types de griefs. L'ancien chef d'état-major par rapport à des promesses qu'il estime avoir été non tenues. Et donc l'ancien président du Conseil général des Pays de la Loire. Par ailleurs, président donc du Puy du Fou.
Le Puy du Fou qui cartonne
et qui a été effectivement séduit intellectuellement, il faut avoir l'honnêteté de le dire, par le président Macron, qui s'y est rendu d'ailleurs plusieurs fois pour montrer un petit peu son attachement intellectuel et pas politique. Bon, après, le fait que ce soit sur CNews invalide le propos, me semble-t-il.
Mais c'est ça.
On pourrait même résumer l'histoire, parce que encore une fois il y a un fond, un arrière-bruit d'une tension nouvelle ou renouvelée qui tendrait à penser que tout le monde fourbit ses armes pour se repositionner dans un combat politique. Mmh. Bon, après, le combat politique, il se fait pas. Comme dirait le général de Gaulle, à l'époque, il fustigeait le fait que c'est pas la bourse que l'on fait la politique de la France. Bah, c'est pas sur les plateaux de CNews que l'on détermine les bons points ou les mauvais points. On a eu ce débat déjà la dernière fois, Adil.
Oui, mais bon.
Où tout le monde essaye de jeter le bébé avec l'eau du bain en disant, de toute façon, ces chaînes doivent être quasiment interdites parce qu'elles défont le débat public. Ben, il suffit de ne pas les regarder, il suffit de ne pas prendre au sérieux tout ce qui s'y dit.
Ouais. Rudy Casi.
Moi,
je reviendrai
celle-ci,
bien.
Celle-ci, hein.
Ah, mais pas toutes. L'animateur a un point de vue étonnant.
Non, j'ai pas de.
Non, je vous embête, Adil. Non, moi, sur le sujet, je pense que ça, c'est constitutif d'une classe politique qui régresse en matière d'éthique morale, je dirais, dans la prise de parole publique, dans les sujets qu'ils amènent. Bon, Philippe de Villiers peut avoir sur certains aspects, pour en tout cas on va dire, un public politique de droite ou de très, très, très à droite, on va dire, je préfère plutôt dire comme ça, très, très à droite, peut faire figure un petit peu de penseur ou voilà, de vieux sage. Et c'est dommage parce que dans tout ça, il y a une intelligence. Quand je parle d'une intelligence, je parle d'un point de vue intellectuel. J'en veux pour cause, effectivement, ce que Emmanuel disait tout à l'heure, de ce rapprochement intellectuel qu'il y avait eu avant la campagne de 2017 avec Philippe Devilliers. Bon, voilà, maintenant, après, il y a la question politique, il y a un agenda politique qui fait que Philippe Devilliers, à un moment donné, ne voulait pas revenir en politique. Il a été séduit, effectivement, par Éric Zemmour, donc il est revenu les deux pieds dedans. Donc, moi, ce que j'aime pas dans cette affaire, en fait, c'est de vouloir passer pour un psychanalyste. Voilà,
on alors qu'il l'est pas,
etc. Alors que l'objectif est purement politique. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut avoir l'élégance du.
Non, mais en lâchant ce type de phrase, moi je suis persuadé qu'il cherche à déstabiliser peut-être l'échiquier politique, notamment. Justement. Alors je sais que c'est pas Macron qui va atteindre. Ce n'est pas Macron, mais comme en ce moment, si vous voulez, il y a un agenda politique, vous l'avez rappelé. Il y a évidemment la crise énergétique, on va en parler tout à l'heure. Il y a notamment le gaz. Il y a des sujets qui occupent la scène politique. Devilliers, c'est pas un tocard.
Non,
quand
mais
il
c'est
dit
pas non plus,
Macron,
c'est pas,
il n'a pas
non,
fini
mais
son enfance.
Mais c'est pas non plus il prépare le aussi le
retour médiatique de propos, Zemmour.
Voilà, c'est ça que je voulais entendre.
C'est pas, enfin, pardon de le dire comme ça, mais c'est Nobod aujourd'hui. On le voit comme le vieux gâteux qui sort ses saillies sur CNews. Je sais même pas si ça sert l'extrême droite. Moi, pour la question de la diversité politique,
il est isolé un peu.
J'assume de dire que CNews, dans notre démocratie, nous devons accepter d'entendre des choses qui nous dérangent. Moi, ça ne me gêne pas. Maintenant, il y a des textes de loi qu'il faut respecter.
Mais c'est choquant de dire ça. Mais c'est un chef d'État. C'est un président. Le fait de dire, effectivement...
Mais bien sûr, alors,
non, mais ça peut être... En tout cas, ça perturbe.
Alors,
ça perturbe quand même.
Mais franchement,
c'est pas une insulte. Ça tombe pas sous le coup de la loi.
Ah, tu dis d'un chef de l'État ? Oui, Emmanuel n'est pas fini. C'est un enfant pas fini.
C'est vraiment pas. Alors, c'est discourtois, c'est inamical.
Des procès en immaturité, il y en a tout le temps.
Effectivement, ça n'élève pas. Et encore moins son parcours politique à Devilliers, c'est pas non plus n'importe qui. Il n'est pas arrivé il y a 10 jours. Mais après, il est responsable de ses propos. J'ose espérer que les Français qui l'écoutent ont assez de sens de discernement pour comprendre ce qui relève de quelque chose de solide, étayé, profond et de superficiel, complètement agressif. Et un peu provocateur, qui fait que passer le tweet, so what.
De toute façon, Lova, ça n'a aucune réelle importance en réalité. C'est une petite phrase par contre qui crée toujours ce sentiment d'agression dans le milieu politique et qui, moi, en tout cas, si j'ai envie de prendre du recul sur la situation, on en parle assez souvent ici, on en fait des débats on air et off air de cette classe politique qui, malheureusement, en plus, lui fait partie de l'ancienne génération, donc il a tendance à finalement se mettre au diapason de cette immédiateté, de cette instantanéité de la réaction politique, qui cherche le buzz au travers de la polémique pour exister sur le plan médiatique. Là, on n'élève pas le niveau, et à son niveau, effectivement, c'est pas terrible. Moi, j'aurais préféré, à la limite, s'il veut être critique vis-à-vis du président, mais qu'il prenne des arguments factuels, qu'il fasse des critiques fondées sur le fond, etc., pour critiquer peut-être le fait que le président, du haut de sa stature de président, n'est peut-être pas à la hauteur de tous les sujets, et que il y a 20-30 ans, on aurait eu des présidents peut-être un peu plus en capacité d'eux. Quelque chose comme ça peut s'entendre. Voilà.
On revient dans une poignée de minutes et je vous redonne la parole, Emmanuel Dupuy. On marque une pause et on se retrouve tout de suite après avec les informés. Lova Rinel, Emmanuel Dupuy, Rudy Kazi, à tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
56. Qu'est-ce que vous disiez à la antenne ?
Que vous étiez incroyablement synchrone.
Mais non. Ça, vous savez, c'est toute une, c'est une pratique. Hein.
Ah non, c'est un métier, je connais. C'est un métier.
Voilà, c'est toute une pratique. je vous expliquerai, Lova. Lova Rinel est avec nous, Emmanuel Dupuy, Rudy Kazi, pour les informer 18h56. Si vous venez de nous retrouver, sachez-le. Nous continuons de parler. Alors, je donne la parole à Emmanuel Dupuy parce que, effectivement, il voulait continuer de parler de Devilliers avec Emmanuel Macron n'est pas fini. Cette phrase de Devilliers qui provoque, évidemment, qui choque pas certains et qui interpelle.
En fait, moi, ça me choque pas et ça m'interpelle pas. C'est ça ce que je veux dire. C'est qu'on fait quand même tout un buzz.
Ça.
C'était l'objectif de CNews. Hein. C'est comme ça que CNews fonctionne. D'ailleurs, c'est pas la phrase en question. C'est que le fait que ce soit CNews qui se mette dans la campagne en articulation, sans le dire, d'un soutien à un parti qui n'existe plus vraiment, puisqu'il n'a pas vraiment réussi sa transfiguration politique. Mmh. Donc c'est une forme de récupération. Et accessoirement, ça m'aurait plus choqué et plus embêté si ça s'était traduit par une attaque en règle sur la personnalité du président ou l'incapacité du président à prendre des décisions. Or, il a juste dit que c'était un président qui n'était pas mature. Bon, bah, après tout, les Français, ils sont grands. Hein, je vais paraphraser un certain nombre de responsables politiques qui en Russie disent qu'il faut leur dire les choses telles qu'elles sont. Et ils sauront faire la part des choses.
Donc, qu'est-ce que vous voulez paraphraser ?
Bah, tout simplement que si des gens estiment qu'Emmanuel Macron n'est pas à la hauteur, bah, ils ne votent pas pour lui. Mmh. C'est aussi simple que ça. Et surtout, ce n'est pas en écoutant un chevalier blanc sur le retour que ça fait le là ou que ça indique une réalité quelconque, c'est tout.
Allez, on continue d'avancer justement dans les sujets qui ont secoué et qui ont retenu notre attention. Direction l'Oise, avec une vidéo qui est assez impressionnante. La vidéo d'un lycée handicapé, c'est ça qui retient mon attention. Lynché, qui provoque l'indignation complète. Vous savez quoi? Lynché par ses camarades, par ses élèves, justement. Une enquête est ouverte, d'autres sont en garde à vue. Justement, parlons-en. Et moi, j'ai envie de vous poser cette question. D'abord, comment vous réagissez, vous, Lova Rinel?
Alors moi, j'ai regardé la vidéo et puis le texte qui allait avec. C'est quand même, si on comprend bien, c'est pas la première agression dans la journée. C'est pas sa première agression dans l'absolu. Donc c'est un enfant qui est clairement dans une situation de harcèlement. Il faut mettre les mots.
On va
harcèlement
en parler.
Dans son lycée. Et si j'ai bien compris les propos de la maman, dans une indifférence totale du personnel enseignant du lycée.
C'est ça qui est grave.
Donc moi, le sujet, évidemment, on est dans des interpellations. Je crois que la justice fait son travail. Je ne veux pas aller sur quelle peine, quel rien du tout. Il y a deux sujets. C'est l'éducation des parents par rapport à leurs enfants. Comment, effectivement, on accueille l'altérité. Quels sont les messages que ces enfants qui sont capables de frapper une personne handicapée, un camarade de classe, c'est quoi? Quels sont les messages derrière? Mais au-delà de ça, sur le message institutionnel, ben, il se passe quoi, en fait? On le voit, la maman a déposé plainte, est partie essayer de discuter avec les professeurs.
On a une explication sur cette indifférence?
Bah, là, moi, j'ai regardé les réseaux sociaux, j'ai essayé de trouver, il n'y a aucun message, ni de l'école, ni du proviseur, ni de personne. Donc là, ma question, elle s'ouvre à une personne que j'aime beaucoup, Pape Diaye, l'actuel ministre de l'Éducation nationale. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on en est?
D'ailleurs, il n'a pas dit un mot.
Non, mais je pense qu'il est en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis, il a une parole très mesurée. Et quand il s'exprime, il s'exprime un maximum d'éléments. C'est qu'il va, à mon avis, il va essayer d'avoir tout un tas d'informations. Et quand viendra le moment, très rapidement...
On n'a pas une explication sur cette indifférence du personnel, justement
À part l'indignation que j'ai là, moi, et les propos de la maman, qui dit tout simplement, il s'en fiche. Et que maintenant, elle a déposé... Et puis, ils ont le courage de déposer plainte. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose...
On dit que les agresseurs présumés des élèves de seconde l'aurait frappé car il refusait de leur prêter sa cigarette électronique.
Non mais...
Bon.
C'est un prétexte. Et les autres fois... Dans la même journée, il s'est fait agresser 3 fois. C'est quoi les autres fois? Non mais... Le principe du harcèlement, c'est qu'il n'y a pas. Vous êtes un bouc émissaire et pour rien du tout...
On va parler du harcèlement
vous,
à l'école,
on
justement.
On vous tabasse.
Emmanuel Dupuis.
Oui, bah, donc c'est le mal silencieux, finalement, hein, cette logique de la non-dénonciation, le fait qu'il y a une impunité, que ce soit au niveau... exécutif du collège en question, mais surtout une prise de position qui devrait être forte de manière holistique par l'État. Il faut qu'il y ait une grande cause nationale qui... Alors je sais que Mme Macron s'attelle à cette question.
Le président s'est déjà exprimé à plusieurs reprises, soutenu plusieurs initiatives sur la question du harcèlement, fait des messages personnels, un engagement qu'on n'avait pas déjà
fait. Il avait fait une vidéo récente là d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, mais bon, est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est audible? C'est ça la question aujourd'hui. Moi je veux bien qu'on fasse. Évidemment. Mais on ne parle pas du président de la République, on parle du chef d'établissement qui, lui, vous dites, est indifférent.
On ne parle pas aujourd'hui.
Alors, à partir du moment.
C'est ça qui est inquiétant.
À partir du moment où vous décrétez une cause nationale, vous savez qu'il y a plusieurs causes nationales. Contre l'obésité, contre en faveur donc du dépistage donc des maladies chroniques. Il y a toute une série de choses qui sont rentrées dans l'espace public. Lointain souvenir qui fut le mien quand j'avais travaillé avec un parlementaire il y a de ça 12 ans, un parlementaire qui avait été mis à disposition d'un ancien président de la République qui n'est pas celui-ci ni son prédécesseur, où on avait pensé à inscrire des causes nationales dans les lycées pour qu'il y ait une prise de conscience des établissements, des parents d'élèves et des élèves, avec une journée d'acculturation, une journée de sensibilisation. Encore une fois, l'addiction aux drogues, la lutte contre l'obésité. Et nous avions pensé qu'il fallait inculquer aux jeunes citoyens le don de soi par rapport à ce qu'on appelle pompeusement le lien armée-nation, dont on voulait faire une cause nationale, qui intègre le lycée ou les collèges. Ce que je veux dire, c'est que bien sûr, le président fait son travail. Madame Macron est elle-même très engagée, elle le fut avec le prédécesseur de l'actuel ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Blanquer. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'encore une fois, c'est...
Ça ne suffit pas. La question que je vous pose, c'est... Après, je donnerai la parole à Rudy Kazi. Comment on lutte contre le harcèlement à l'école? C'est là où le bas blesse.
Il faut que tout le monde s'y mette et que, que ça intègre l'espace médiatique.
Mais Lova Rivel vous l'a rappelé, le chef de l'État a fait une vidéo.
Mais c'est pas la même chose.
C'est pas suffisant. En fait, il faudrait ce qui s'est passé, pardon de le mettre en concurrence, mais en comparaison, ce qui s'est passé avec MeToo. La prise de conscience, il faut qu'on en soit à un électrochoc qui touche l'intimité. Parce que dans les différents cas, rappelez-vous, c'était il y a 2 ans, il y avait un cas de harcèlement, il y a eu un suicide, et puis les enfants, aucune garde à vue, mais pardon, ces enfants, ils sortent pas de nulle part. Oui. Les parents, ils sortent. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai 5 enfants à la maison. Si j'apprenais qu'il y en avait un qui avait des propos et un comportement de harcèlement vers un de ses camarades, croyez-moi, qui va entendre passer la savonnette à la maison.
Mais parfois, ça leur échappe, les parents.
Non, attendez.
Bah si, ça leur échappe.
Parce que, écoutez, moi, je suis maman, je suis membre d'une association parents d'élèves. Le truc, c'est que on ne discute plus avec les parents. Et que les parents ne veulent même plus discuter avec les... Il y a une séparation humaine. Et là, ça relève il faut créer du lien. Mais il faut le prendre à bras le corps.
Les auditeurs, je vais les interpeller. 01 53 48 3000. Est-ce que vous, parents d'élèves, est-ce que vous, parents, justement, d'enfants, est-ce que vous êtes au courant de ce que, pour votre enfant, de ce qui se passe à l'école? Rudy Kazi, 01 53 48 3000.
Bon, déjà, c'est la question du handicap. Et on en parlait aussi. De l'harcèlement et aussi du cyberharcèlement qui malheureusement exacerbe le harcèlement à l'école, et aussi la question de la parentalité, c'est un sujet dont on parle notamment dans notre livre, j'ai fait la pub auto-promo comme dirait l'autre, de notre livre La Promesse Républicaine. Non, c'est réellement un sujet qui est important pour nous, au moins 5 auteurs ont écrit là-dessus, et il y a des événements qu'on est en train de préparer sur le sujet du handicap et du handisport en particulier. La première des choses, c'est que on devrait l'évoquer davantage, et il y a une question aussi d'éducation là-dedans. Parce que quand même, pour aller frapper un gamin qui est handicapé, il y a un problème d'éducation. Lova le disait à l'instant, moi c'est pareil, moi j'ai 6 enfants. Mes enfants sont plutôt décrits comme étant des enfants plutôt calmes, corrects, etc. Si c'était l'inverse... Croyez-moi que dans la manière dont moi j'ai été éduqué, on laisse pas passer un certain nombre de choses. Moi j'ai été éduqué par un grand-père qui était assez virulent sur les valeurs, sur les principes. On vit peut-être dans une société aussi.
Ça ne se discute pas, les valeurs et les principes.
Ça ne doit pas se discuter. Je pense qu'on vit dans une société où la transmission des parents vis-à-vis des enfants commence à être marquée par une rupture.
Donc là, vous êtes en train de remettre en cause le rôle des parents.
Je remets en cause d'abord le rôle des parents. Suivez-moi. Pour le moment, je suis dans un cheminement.
Plutôt convoquer la responsabilité des parents.
Parce que là, on est à l'école. On parle d'éducation nationale. Pour moi, on en a fait même des débats ici. L'éducation nationale n'est pas là pour éduquer. Elle est là pour transmettre du savoir. Ouais. L'éducation, ça doit être la responsabilité des parents. Et je trouve que notre nation, dans ses évolutions depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, ne responsabilise pas suffisamment les parents. Je dirais même que on a plutôt tendance à penser que les enfants deviennent, comme des pupilles de l'État, comme ça, et qui doivent être prises en charge uniquement par l'État. Les parents sont déchargés de leurs responsabilités, ils sont pas souvent à la maison. Les classes moyennes sont chassées de Paris ou des grandes villes pour aller habiter donc dans des cités dortoirs, pas seulement cités au sens de quartier, mais au sens d'endroits où on va se parquer pour repartir le lendemain bosser. On casse du lien, il y a les réseaux sociaux qui viennent exacerber cette situation, puisque les parents échappent totalement au contrôle des réseaux sociaux, que ce soit au niveau de la pornographie, que ce soit au niveau de la violence, des images. À un moment donné, il y avait toutes les images de Daesh qui circulaient. Vous vous rappelez, il y a eu donc le projet de Laetitia Avia là-dessus, qui est venu contrôler ces affaires-là. Parce qu'on est dépassé de partout. On vit dans une société, j'en finirai par là. La députée Laetitia Avia, anciennement députée. On vit dans une société où malheureusement il y a une perte de valeur dans l'éducation. Il y a, on attend tout de l'État, un État.
Après l'Ovarinel.
On attend tout de l'État. Déjà, l'État en France a tendance à être assez tentaculaire, pour ressortir un petit peu les cours de droit. L'État a tendance à s'investir un petit peu dans toutes les sphères, mais il ne maîtrise rien, parce que pour avoir un État fort, surtout dans le cas français sous la Ve République, il faut un chef d'État visionnaire. on va pas tout attendre du chef de l'État en termes de vision, mais au moins il faut un cadre.
Alors faisons un tour de table.
Il faut un cadre.
Faisons un tour de table.
J'en finirai par là. Il faut un cadre, une vision quasiment anthropologique. Quelle est la France que l'on veut de demain? Non pas seulement sur le plan économique, mais sur le plan social. Il est là, elle est là, la situation. Et à un moment donné, il faut aussi que nos dirigeants soient suffisamment humbles pour reconnaître qu'il y a des sphères dans lesquelles ils n'ont soit rien à faire, ou ils n'ont pas suffisamment de capacité et de pouvoir pour pouvoir
Emmanuel Dupuis,
voilà, ensuite faire avancer les choses.
On ne le redira jamais assez. Le processus d'éducation est un processus inclusif, comme on a pomposément l'habitude de le dire. L'école n'est pas une parenthèse. L'école fait partie d'un apprentissage. Les parents sont aussi importants que les enseignants. Le parcours d'un citoyen, le parcours d'un jeune citoyen, c'est évidemment apprendre l'autorité parentale parce qu'elle est innée, naturelle, et l'éducation parce qu'elle est acquise. On ne naît pas citoyen, on le devient à travers ce qu'on nous reçoit. Si c'est biaisé, s'il y a des obstacles, s'il y a une rupture dans le vivre ensemble à l'école, c'est autant la responsabilité de l'État, des collectivités locales, car je rappelle que les collèges dépendent des conseils départementaux, donc ils ont aussi leur mot à dire, pas que l'État, c'est pas que le ministère de l'Éducation nationale, ça ce sont les programmes. Après, l'environnement, l'encadrement, ce sont les collectivités territoriales. Et donc, ils doivent jouer leur rôle.
Je parlais plutôt pour la responsabilité administrative et pénale du proviseur.
C'est le ministre.
C'était vraiment dans le cadre du cas précis de la négligence. Attention, je ne voulais pas mélanger.
C'est complémentaire avec le fait qu'il y a une sorte d'échelle vertueuse des responsabilités. Et donc, du coup, ce n'est pas que le chef d'établissement qui est responsable, parce qu'il l'a laissé passer.
Lova Rinel. Et ensuite, après, je vais interroger nos auditeurs. J'attends d'ailleurs que vous nous appeliez, parce que c'est très important, vous, parents, quelle relation avec vos enfants, 0153483000, lorsqu'on parle du harcèlement à l'école. Lova.
Alors, Rinel. Moi, justement, c'est bien d'avoir fait la transition sur les auditeurs. Mon message, il leur est vraiment adressé. L'enfant, par définition, ne dit pas tout à ses parents. Il faut l'accepter. Il construit son intimité. Et ça va s'élargir avec le temps. Nous sommes nous-mêmes des anciens enfants et je ne dis pas tout à ma mère. Ce qui est sain et normal. Maintenant, nous avons la responsabilité de délimiter avec le temps et d'accompagner l'élargissement de cette intimité. J'en veux pour preuve. À la maison, mon le plus grand a 12 ans. Dans sa classe, je suis étonnée de voir qu'aucun des parents et d'autres dans le même collège ne pensent au contrôle parental. Mais à 12 ans, excusez-moi, l'enfant n'a pas les moyens de savoir ce qui relève de la pornographie, ce qui relève de la violence, quand ça devient une banalisation des images.
Vous avez raison de le rappeler.
C'est là où j'en appelle.
Vous avez raison, c'est terrible.
Il y a des gamins du collège, et même
les
parfois
enfants,
de primaire.
Il a galéré avec un 3310, et croyez-moi que quand ils sont tous sur WhatsApp, c'est pas sympa.
Moi, c'est simple, mes gamins n'ont pas de smartphone, ils n'ont pas de téléphone. Voilà.
Mais à 12 ans, moi, j'ai besoin de les joindre, et le téléphone, ça sert aussi.
Mais justement, c'est ça notre problème, c'est qu'on vit dans une société.
Non, moi, la modernité ne me
On se sent, c'est pas une question de modernité. C'est qu'en fait, on se sent obligé d'être trop proche de nos enfants. Et finalement, on pense qu'on leur fait confiance, mais on leur fait pas suffisamment confiance. Moi, je me rappelle les conditions dans lesquelles j'ai grandi. Mm-hmm.
C'est pas la même époque.
Ouais, bon, c'était à une vingtaine d'années quand même.
Elle a raison, Laura Rinel. On a changé d'époque.
Le problème, c'est pas la question de changer d'époque, c'est de penser que la modernité remplace tout. Moi, à l'époque, quand j'étais plus jeune, je sortais, il fallait que je dise où j'allais. Quand j'allais chez des amis, je donnais le numéro de téléphone. Si jamais il y avait un besoin d'urgence, on me contactait. Donc si le téléphone peut remplacer cette fonction, moi ça me pose aucun problème. Sauf qu'aujourd'hui, on a soi-disant des téléphones intelligents qui sont utilisés par les enfants dont on prête une intelligence précoce parce qu'ils savent utiliser les smartphones, mais qu'en fait sont immatures pour les utiliser.
Mais là,
et ça ne pose aucun problème aux parents. Donc,
Lova, et ensuite après, je vais aller au direct sur le standard.
Vraiment,
attendez.
Le progrès, il a bon dos.
Attendez, s'il vous plaît, parce que j'ai pas mal d'appels et j'aimerais vraiment les faire réagir. Toulouse, on a Virginia. Bonsoir, Virginia.
Bonsoir, salut à tous.
Bonsoir, vous faites quoi dans la vie, Virginia?
Moi, je suis entrepreneur.
Bienvenue, on vous écoute, ma chère Virginia.
Super, donc moi, je voulais rebondir sur plein de choses parce que finalement, je fais partie de ces parents qui travaillent beaucoup. Qui sont pas beaucoup à la maison et qui pour autant ont un regard sur leurs enfants, sur ce qu'ils font, sur le contrôle des réseaux sociaux, par exemple. Moi, mes enfants, déjà j'ai deux adolescents, 15 ans et 18 ans, ils n'ont pas eu accès aux réseaux sociaux avant l'âge de 13 ans.
Ben voilà, bravo.
Déjà. Un téléphone, ils l'ont eu.
Qui est une enquête qui est...
Mais bon, assez... pour revenir un peu à l'époque arrière, ils ont eu des téléphones à touche. C'est-à-dire que jusqu'à la
bravo, mais c'est ça.
À partir du moment où ils étaient au collège, le but c'était d'être joignables, qu'ils puissent nous joindre. Ouais, mais en
c'est
aucun
exactement
cas,
ça. C'est ce que disait Lova Rinel.
Voilà, avec tout ce que ça implique, tous les dangers des réseaux sociaux. Voilà, et le harcèlement scolaire en l'occurrence passe aussi par là et beaucoup par là.
Virginie, merci pour ce point de vue très important. Lova Rinel, vous lui répondez.
Oui, et merci parce qu'en fait, ça rejoint, la même activité professionnelle. Donc, je fais partie de ces mamans qui ne sont pas présentes de manière quotidienne. Et effectivement, on délègue aussi l'éducation un peu, finalement, à l'école quand on les envoie pendant 8 heures dans la journée et ils ne sont pas avec nous. C'est une réalité. Pour autant, ça ne retire pas ma responsabilité.
Pas la part d'éducation, la surveillance.
Mais c'est parce qu'en fait, ils sont dans un rapport d'enseignement. C'est pas une garderie, l'école.
Oui, bien sûr, mais les valeurs...
C'est pas une garderie, l'école.
La sociabilité, il y a des choses qu'ils apprennent sans moi, et ça aussi, c'est très bien.
Ça, je suis d'accord.
Et ça fait partie de valeurs que je délègue volontiers à l'éducation nationale.
Mais le problème, c'est que même ça fonctionne mal.
Non,
parce que tu as des professeurs qui, dans des classes, sont totalement perdus.
C'est l'inégalité, c'est l'inégalité.
Je vous donne la parole,
Emmanuel. Et je crois qu'il faut l'accepter, qu'on n'a pas aussi des professeurs militaires cadrés de la même manière. C'est la vie, c'est comme ça. Mon patron, lundi, ne sera pas le même lundi dans 5 ans. C'est comme ça, c'est la vie. Ça fait partie d'un apprentissage. Maintenant, ce que je veux dire par là, et aux parents qui m'entendent, la vigilance nous incombe. C'est
la
pas...
vigilance.
Et je le dis, il y a eu, vous savez, rappelez-vous, Blanquer, quand il fait sa fameuse interdiction d'entrer les téléphones, laisser entrer. Non, mais ce qui relève du normal pour toi, Rudy, t'as bien vu les réactions ? Comment ça, c'est une dictature ? Non, mais j'étais là, mais sérieusement ? L'école, c'est pas un réseau social pour chatter avec ses copains.
C'est vrai, c'est vrai. Avant de donner la parole à Emmanuel Dupuis, je vais juste appuyer Rachid de Cher, qui nous appelle de quelle ville précisément, Rachid ?
Cher.
Ah pardon, excusez-moi, Cher. J'ai compris que c'était son nom de famille. Rachid, bonsoir.
Cher.
Rachid ? Allô, une fois ?
Allô ?
Oui, Rachid, on vous écoute, bienvenue.
Cher
77.
Allô ?
Oui. Bah, vous êtes à l'antenne, en direct ?
Non, mais c'est une dame, c'est que Rachida.
Ah, Rachida, bonjour. Excusez-moi, Rachida, je suis désolé. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Rachida ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Rachida ?
En fin de compte, je travaille dans une cuisine centrale pour tous les repas des écoles.
Ah bah tiens, ça tombe bien. Parlons-en, le harcèlement à l'école. Quel est votre point de vue ?
Moi, l'harcèlement... En fin de compte, il y a harcèlement et harcèlement, on va dire. Mais maintenant, les jeunes, en fin de compte, ils ont changé de... Ils ont grandi, ils agressent tout le monde pareil. Mmh. Mais par contre, il y a harcèlement, l'handicap, il y a les personnes qui sont handicapées. Et on ne peut pas jouer avec eux. Mais par contre, moi, ce que je veux dire, c'est ces trucs-là, normalement, c'est aux parents de leur apprendre, on est tous pareils. Il ne faut pas faire de différence.
Il ne faut pas faire de différence. Le pauvre jeune lycéen de 16 ans s'est fait insulter de canard boiteux. Vous voyez ? Et régulièrement. Vous qui êtes dans une école, comment vous vivez justement les différents harcèlements ? Vous le voyez, vous le vivez, ça ? Vous le voyez chez les gamins, chez les élèves ?
Honnêtement, non, parce qu'en fin de compte, c'est tout ce qu'est-ce que... en fin de compte, primaire, tout, voilà. C'est pas au lycée, voilà.
Bon.
Ça n'a rien à voir.
Merci, Rachida, d'être intervenue.
Par contre, monsieur,
oui.
Par contre, moi, je vais dire, c'est aux parents aussi d'apprendre à leurs enfants. Alors, enfants, enfin, faut pas être méchant ou quoi. C'est comme la dame, elle a dit, moi, je travaille tout, quand ils étaient petits, mes enfants, maintenant, machallah, ils ont grandi. Hein. Ils ont grandi. Et par contre, ben, je travaillais, je les ai à l'étude, tous les deux, ben, ça leur a fait du bien. Au lieu qu'ils aillent traîner, enfin, façon de traîner, je crois, à 12 ans, faut pas traîner, je crois.
Merci, Rachida. Je lance la pub. Merci infiniment d'être intervenue. Je donne la parole à Emmanuel Dupuis. J'ai pris beaucoup de retard, mais volontairement, c'est très intéressant d'avoir aussi le retour des auditeurs. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
On parle tous comme des gens.
On parle tous.
Vous êtes. Amis, 19h24, dernière ligne droite avec Lova Rinel, avec Emmanuel Dupuis, avec Rudy Kazi. Consommation d'énergie, le plan de sobriété, parlons-en justement. On parle de restrictions là, on parle de coupures entre 12h et 14h, on parle de plein de choses. Que faut-il comprendre, Lova Rinel, vous, porte-parole du mouvement pluriel ?
Alors, je vais mettre une autre casquette, celle de chercheur, sur les questions de dissuasion nucléaire. On répond à un contexte géopolitique particulier qui s'appelle, qui se passe, en fait, c'est la guerre en Ukraine sur une offensive russe. Donc, tout cela n'est pas, on va dire, une envie, on va dire, écologique, restrictive. Évidemment, il y a la question environnementale. Mais ce qui nous a fait, ce qui nous a fait, nous, là, prendre cette décision aujourd'hui, c'est pas la question environnementale.
Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre sur ce plan de sobriété, de consommation, restriction, coupure même?
Il y a une situation géopolitique qui touche à nos intérêts stratégiques et, en l'occurrence, énergétiques, et qui nous pousse à revoir notre action à l'aune des priorités environnementales. C'est ça que ça veut dire. C'est des sacrifices. Je crois que le mot n'a pas été dit, mais ça va être ça. C'est des sacrifices. Je comprends, même pour moi, c'est pas simple, mais il va falloir réadapter notre façon de penser. Et quelque part, pour moi, je crois qu'on fonctionne aussi aux électrochocs. L'électrochoc, ça a été les incendies incroyables cet été, mais incroyables. Moi, j'étais en Gironde, j'ai cru que c'était le chaos total. Eh bien, je crois que les Français ne veulent pas voir ça, en tout cas dans leur pays. Et ça touche, en fait, à un moment, il faut agir. Donc, c'est dans le quotidien et le voilà, le quotidien.
Agir, quand vous dites qu'il faut agir, c'est quoi?
C'est les restrictions, c'est-à-dire que malheureusement, on doit surveiller notre consommation. Alors, on parlait de 19 degrés dans le salon, les 17 degrés dans la chambre ou dans la salle de bain, je ne sais plus exactement. La blague, c'est le fameux col roulé. Mais en fait, sorti de ça, c'est...
Macron style.
Oui, non, c'est Bruno Le Maire style.
Macron, il a mis un col roulé.
Macron,
oui, après.
Macron,
oui,
et en Allemagne, en plus.
C'est ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, on sait tous... on pose tous la question de notre consommation qui est dite et décrite depuis des décennies comme étant prédatrice. Il est là le sujet. Parce qu'en fait, l'énergie, elle est où? C'est du pétrole, c'est du gaz. Leur acheminement, ils viennent d'où? Et ça vient pas du Kremlin Bicêtre dans 94, non. C'est des pipelines qui sont dans des pays avec qui on a de grosses interrogations sur la question de gouvernance, de valeurs humaines. Donc là, la question, elle se pose. Qu'est-ce qu'on veut, nous? Et ça nous force à devoir revoir nos partenaires, la manière dont on veut vivre avec la modernité. Et c'est un peu le sujet. On parle des smartphones. On parle de la crise en Russie. Mais moi, quand j'étais présidente du CRAN, la campagne qu'on a faite sur l'extraction des matières premières dans nos smartphones, qui mettent des enfants dans des tunnels, qui ont 2, 3, 5 ans...
En RDC, dans le Nord.
Voilà, merci. Je savais que tu allais compléter, donc ça, je t'ai laissé cette ouverture. C'est juste pas normal qu'on ait ce genre de consommation. Notre téléphone utilise des enfants au quotidien. Personne ne pense décemment à arrêter son smartphone. Moi, je dis que cette relation et ce rapport prédateur, il faut l'arrêter, et que ça commence par une prise de conscience. Et j'invite encore une fois les auditeurs à se dire, c'est le moment de la réflexion, qu'est-ce qu'on fait, mais de manière équitable et égalitaire. Évidemment, Total doit revoir sa manière de penser les choses, mais moi, est-ce que j'ai besoin de changer de téléphone portable tous les deux jours? Je ne sais pas.
Voilà. Emmanuel Dupuis, on fait un tour de table, s'il vous plaît.
Oui, alors, on risque de vous étonner.
Tu devais lui donner la parole en premier tout à l'heure.
Oui, c'est vrai.
Bon, je la prends. On risque de vous étonner. Je ne serai pas critique sur la politique du gouvernement pour une autre raison. C'est qu'à un moment ou à un autre, au-delà des électrochocs, qu'on soit à 18, d'ailleurs je crois que les administrations sont incitées à passer à 18, et nous à 19,
et l'eau froide,
et à 17, avec des restrictions sur des plages horaires. Je crois que Laura l'a très bien dit, à un moment ou à un autre, au-delà de la crise en Ukraine, au-delà de la diminution de notre parc nucléaire, de l'électricité qui est produite par notre parc nucléaire, on était à combien, 77 à un moment?
56. Un peu plus, non. Enfin là on est à 56, là,
56, bon.
Avec des pannes, on est plutôt à 30 d'ailleurs.
Tout ça pour dire qu'à un moment ou à un autre, il faut penser le long terme. Vous savez, moi je suis un prospectiviste, on est aussi tous les deux chercheurs. Je crois que ce qui est important, c'est l'électrochoc pour déterminer ce qui, sur le long terme, va nous permettre de gagner en efficacité énergétique. La sobriété, c'est une réponse à court terme, parce qu'il y a une urgence. La crise en Ukraine l'a provoquée, mais sur le long terme, il faut que nos bâtiments soient plus résilient. On l'a fait aussi avec des bâtiments intelligents pour que dès qu'on sort d'une pièce, l'électricité s'arrête toute seule. Ça paraît tellement évident qu'il faut réfléchir aussi à la manière dont nos LED, la plupart des bureaux ne sont pas tous équipés en luminaire LED. Des choses simples, logiques, qui peut en plus porter sur l'attractivité économique de notre pays. Si on a une des normes qualitative en matière de sobriété énergétique, vous allez voir qu'il y a des entreprises qui vont venir s'installer en France en disant, mais voilà une nouvelle norme Et je crois que c'est important parce que ça va créer, encore une fois, sur le long terme, le besoin de rénover, de nous adapter.
Exactement.
C'est pas juste cet hiver, même si on va tenir l'hiver.
Ouais.
La commission de la régulation de l'énergie dit qu'on est à 99%, donc pas de souci. Mais c'est le long terme. La crise en Ukraine se terminera et ça ne réglera pas le problème.
Ça réglera pas le problème. Autre, Rudy Casi, vous avez quelques secondes, malheureusement, on fait signe qu'on je dois rendre l'antenne. Ouais. Allez-y, je vous en prie.
Moi, je vais surtout nous amener en fait à réfléchir finalement sur notre modèle de société. Parce que finalement, aujourd'hui, s'il y a autant de problèmes environnementaux, s'il y a autant de situations économiques qui, déséquilibrent le monde sur le plan économique, c'est parce qu'on a un système aussi capitaliste qui arrive un petit peu à bout de souffle. On va chercher en fait des énergies qui ne fonctionnent quasiment plus, parce qu'il n'y a plus un lopin de terre où on peut construire. Et en plus, quand il faut construire maintenant, il faut construire dans des nouvelles normes. Donc en fait, tout est en train de se remettre en question parce qu'on est arrivé totalement à bout de souffle. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais en fait, que ce soit le gouvernement actuel ou les gouvernements précédents, n'ont pas su en fait se démarquer par une vision à long terme, remettant en question cette société capitaliste qui malheureusement quelque part les soutient et quelque part en fait les amène aussi à développer encore.
Merci.
Donc en fait, il faut revoir notre
Rudy
modèle
Casi.
De société.
Merci Emmanuel Dupuis. Merci Lovarinel. À très vite. Vous trois.
Merci à vous.
Absolument.
Vous trois de nouveau. Avec grand plaisir.
Très intéressant. Vraiment.
Avec grand
plaisir. Merci aux auditeurs au 01 53 48 3000. Merci à vous tous. Bilal Edman 2021, ensuite Vanessa. Quant à moi, on se retrouve demain avec autant de plaisir. Mais surtout, on ne lâche rien.
On ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.